Extrait numéro 1, chapitre 1. La famille Koutchelev. Avant de nous mettre en route, il convient que nous vous fassions faire connaissance avec nos compagnons de voyage. Si vers la fin de l'hiver dernier, vous avez passé par hasard de minuit à 4 heures du matin sur la place du Palais-Royal, vous avez dû voir une chose qui faisait la stupéfaction des cochers de fiacre et des balayeurs, seules créatures humaines qui aient le droit d'être éveillées à de pareilles heures. C'était tout un premier étage de l'hôtel des Trois Empereurs, avec un balcon tout garni de rosiers, de camélias, de rhododendrons et d'azalées, éclairé à giorno et laissant entrer l'air et la fraîcheur de la nuit par ses quatre fenêtres, toutes grandes ouvertes, à moins que Sivori ne jouât ses raffisantes études sur le violon ou Asher ses merveilleuses mélodies sur le piano. Dans ce salon, et à travers les fenêtres ouvertes et les fleurs épanouies, on voyait de la rue causer, se promener, gesticuler une douzaine d'hommes, parlant d'art, de littérature, de politique, de bric-à-brac, de tout, excepté de bourse et d'agio, causant enfin, chose plus rare que l'on ne croit qui n'a jamais existé qu'en France et qui, en France, j'en ai bien peur, commence à se perdre, grâce à l'introduction du cigare et à la fuite des soupers. De temps en temps, une jeune femme de 23 à 24 ans, svelte comme une Anglaise, gracieuse comme une Parisienne, paresseuse comme une Asiatique, se levait du sofa où elle était couchée, prenait sans préférence le bras de celui qui se trouvait le plus près d'elle et se traînait nonchalamment jusqu'au balcon où elle apparaissait ensevelie jusqu'à la ceinture dans les fleurs. Là, elle respirait, regardait vaguement le ciel, laissait tomber quelques paroles qui semblaient comme celles des elfes et des Willis, dites pour un autre monde que le nôtre, et rentrait après un instant pour reprendre son attitude à moitié orientale, à moitié européenne. Il est vrai que si une polka résonnait, si une mazurka se faisait entendre, la nonchalante enfant du Nord se redressait, s'animait, et bondissant, vive et légère comme une fille de Séville ou de Cadix, ne s'arrêtait que quand la musique avait cessé, que quand la fanfare s'était éteinte. Dans ces instants de surexcitation, qui visiblement ne font point partie de sa vie habituelle, sa physionomie change comme ses habitudes. Son œil de velours, d'ordinaire plutôt languissant que vif, entouré d'un cercle de bistres que l'on croirait tracé par le plus habile pinceau arabe, lance les feux du diamant noir. Son teint, uni comme la feuille du camélia, s'infiltre d'une teinte de carmin qui fait pâlir les roses qu'elle respire. Son nez, d'une finesse extrême, se dilate. Sa lèvre se retrousse et laisse voir des dents petites, fines et blanches, qui semblent alors plutôt faites pour la menace que pour le baiser. Presque toujours, elle trouve moyen, dans les courbes qu'elle décrit au moment où elle a quitté son ottomane, de passer à portée d'un jeune homme de 25 à 26 ans, d'une taille ordinaire, très mince, au visage pâle, aux yeux brillants d'un éclat étrange, qui, s'il se fixait, deviendrait fascinateur, comme ceux de Manfred et de Lord Ruthven. À la main, délicate et transparente, chargée de bagues, aux pieds minces et fins comme celui des races aristocratiques. En passant, elle lui tend le front ou la main, et lui, avec un sourire qui colore une seconde sa pâleur, pose doucement ses lèvres sur ce front ou sur cette main, avec la même délicatesse qu'il le ferait sur un anneau ou sur une fleur. Cette jeune femme, c'est la comtesse. Ce jeune homme, c'est le comte Koutchelev Bezborodko. Tous deux sont russes. Le mari, de vieille race, moitié cosaque, moitié russe. Bezborodko apparaît le premier dans les fastes historiques. Bezborodko appartenait à la Ligue des Cosaques Zaporog, retranchée derrière les cataractes du Dniepr, dans une guerre contre les Turcs, il eut le menton emporté. De là le surnom de Besborodko, sans menton. Vous le voyez, c'est de la noblesse à la manière de Goetz de Berlichingen, la vraie, la bonne, la belle, qui sème sur les champs de bataille, a droit de récolter dans l'histoire. La famille apparaît avec ce surnom du temps d'André Mikhaïlovitch. André Besborodko est le dernier écrivain, général et grand juge des Cosaques Zaporog. Un jour, le feld maréchal Romanzov passe par l'Ukraine et demande au dernier hetman Razumovski, un chef de chancellerie. L'hetman lui donne Alexandre Besborodko, le fils du grand juge. À son tour, Catherine II, la vraie Catherine, quoi qu'on en dise, Catherine, qui parle très mal le russe, elle est allemande, on s'en souvient. Catherine demande à Romanzov un secrétaire assez intelligent, non pas pour écrire sous sa dictée, mais pour qu'au contraire, elle écrive sous la sienne. Romanzov lui donne le même Alexandre Besborodko que lui a donné Razumovski. Le jeune homme aura comme coup d'essai à lui faire pour le lendemain un travail très important. L'impératrice jugera le nouveau secrétaire sur ce travail. Elle le lui explique, Besborodko écoute attentivement et se retire. Le travail est long et compliqué. Il n'aura pas trop de la nuit pour le préparer. Mais Besborodko est jeune, il aime le plaisir, il doit dîner avec des amis, il doit souper avec des femmes. Renoncera-t-il à tout cela pour faire un travail ennuyeux ? Non. Le travail viendra après le plaisir. Il rentrera le matin chez lui et avec sa facilité de rédaction, quelques heures lui suffiront, là où tout autre n'aurait pas trop d'un jour. Besborodko se laisse entraîner et rentre chez lui à 10 heures du matin. Il a promis de livrer à Catherine son travail à 10h30. Bon, il s'en tirera par un subterfuge. Il lira sur un papier blanc un prétendu travail. L'impératrice lui fera ses observations. Il se retirera dans son cabinet pour corriger son rapport. Et au lieu de le corriger, il le fera. Il entre, salue l'impératrice, tire son travail absent de son portefeuille, s'approche de la fenêtre sous prétexte qu'il a la vue faible et sur un papier blanc improvise tout un projet. L'impératrice écoute, approuve et prend la plume. « Donnez que je signe, dit-elle, je n'ai pas la moindre observation à faire. »« Comment, Majesté, pas la moindre ?»« Pas la moindre, donnez, je suis contente de vous. » Il n'y avait pas moyen de reculer. Besborodko s'approcha, mit un genou en terre et tendit le papier blanc à l'impératrice en lui demandant pardon. Catherine aimait assez avoir un beau jeune homme à ses genoux, soit lui demander pardon, soit lui demander autre chose. Elle lui pardonna. Non pas comme vous l'entendez peut-être. Le vieux Romanzov avait fait la leçon à son protégé. « Sois tout ce que tu voudras auprès de l'impératrice, lui avait-il dit, excepté son amant. » Besborodko se défendit comme une rosière et resta simplement secrétaire de Catherine II. En attendant, Catherine vieillissait et son fils Paul commençait à entrer dans cette série de folies qui firent de lui le roi le plus fantaisiste de l'Europe. Catherine, pour s'en débarrasser momentanément, l'exila à Gatchina. Puis, pour s'en débarrasser tout à fait, elle appela Besborodko et lui dicta son testament. Par ce testament, elle excluait Paul de la couronne, que de sa main toute puissante au mépris des droits de l'hérédité, elle posait arbitrairement sur la tête de son petit-fils Alexandre. Le premier testament écrit, l'impératrice ordonna à Besborodko d'en faire une copie. La copie faite, elle les signa tous deux, original et copie. Puis elle dit à Besborodko, « Il n'y a qu'à toi que je me fie, Alexandre. Tu déposeras un de ces testaments dans la métropolitaine de Moscou, l'autre au Sénat de Saint-Pétersbourg, et tu veilleras après ma mort à ce qu'il soit exécuté. » Besborodko s'inclina et partit avec les deux testaments. 8 jours après, il était de retour. « Eh bien, lui demanda Catherine, les ordres de votre glorieuse majesté sont exécutés, répondit Besborodko. » Et Catherine, qui comptait sur la fidélité passive de son secrétaire, dormit plus tranquille sur l'avenir. Il était temps, au reste, que l'impératrice prît cette précaution. Un matin, elle se sentit atteinte de colique et passa dans son water closet, comme disent nos voisins les Anglais. Elle y était à peine qu'elle poussa un cri. Ses femmes accoururent, elles la trouvèrent étendue à terre et morte. À la première nouvelle, Besborodko sauta en selle et partit au grand galop pour Kachina. Il y trouva Paul. « Altesse, dit-il, j'ai une terrible nouvelle à vous apprendre. »« Laquelle ?» demanda le jeune prince effrayé. Déjà prisonnier, il pouvait lui arriver pis. Le tsarévitch Alexis était un précédent. « Altesse, votre auguste mère est morte. »« Ma mère est morte ?» fit le jeune prince. « Oui, Altesse. »« Alors tu te trompes, Besborodko, je ne suis plus Altesse, je suis Majesté. » Besborodko secoua la tête. « Comment non ? L'auguste impératrice vous a déshérité. »« Déshérité, moi, et en faveur de qui ?»« En faveur de votre fils Alexandre. »« Impossible, c'est moi qui ai écrit les testaments que l'impératrice a signés devant moi. »« Et qu'en as-tu fait ?»« J'ai reçu l'ordre de déposer l'un à la métropolitaine de Moscou, l'autre au Sénat de Saint-Pétersbourg. »« Tu mens, Besborodko. »« Je mens si peu, Altesse. » répondit Besborodko, tirant 2 papiers de sa poche, que voilà les 2 testaments écrits de ma main et signés de celle de votre auguste mère. Et il présenta les 2 testaments à Paul. Et qu'as-tu déposé alors au Sénat de Saint-Pétersbourg et à l'église métropolitaine de Moscou ? 2 feuilles de papier blanc. Mais si l'impératrice s'était défiée de toi et avait fait par quelque autre redemander les testaments, sais-tu que tu risquais ta tête ? Les beaux joueurs ne regardent pas à l'enjeu. Et tu es sûr que ces 2 testaments soient les seuls qui existent ? Les seuls, j'en réponds à votre Altesse. De sorte que je puis hardiment les déchirer ? Déchirez-les, sire, fit Besborodko. « Je te remercie, prince, » dit Paul. Et il déchira les testaments. Besborodko fut fait grand chancelier de l'Empire et prince Altesse, avec 20 000 paysans à prendre où il voudrait dans l'Empire de toutes les Russies. C'était la 2e fois que le papier blanc lui portait bonheur. Nous voilà bien loin de la place du Palais Royal et du balcon de l'hôtel des 3 empereurs. Mais soyez tranquille, nous y reviendrons. J'ai encore sur ce sujet pas mal de choses à vous dire. Seulement, après avoir vu ce qu'était l'un des aïeux du comte, l'aïeul Besborodko, voyons ce qu'était l'aïeul Kouchelev. Il existait du temps d'Ivan le Terrible une petite république située près du lac Pépous. Prononcez Pépous. Elle se nommait la République de Pskov, prononcée comme vous pourrez. Ivan le Terrible avait comme Hercule une peau de lion. Mais au lieu de prendre comme Hercule des pygmées, il prenait des républiques. Il prit la République de Pskov. La République de Pskov prise, au lieu de procéder comme pour la République de Novgorod, dont il avait brûlé la ville et tué les habitants, il laissa la vie à tout le monde et donna même des charges à ceux des républicains qui furent assez traitables pour les accepter. L'aïeul du comte Kouchelev fut un de ces républicains-là. Lorsque Catherine II exila son fils Paul à Gatchina, elle lui donna une petite cour de jeunes nobles, au nombre desquels était le grand-père du comte Kouchelev. Paul, devenu empereur grâce au testament déchiré de Besborodko, donna au jeune Kouchelev, un de ceux qu'il aimait le mieux parmi ses compagnons, le titre de comte et le fit, en outre, chef dirigeant la marine. Le titre de ministre n'existait pas encore. Il date de l'empereur Alexandre. Maintenant, pourquoi Paul Ier était-il exilé à Kachina? Pourquoi Catherine excluait-elle du trône Paul Ier? Pourquoi donnait-elle ce trône dont elle excluait Paul à son fils d'Alexandre? Pour trois raisons. La première, c'est qu'elle sentait la répulsion invincible qu'avait pour elle Paul, qui ne pouvait ni oublier ni lui pardonner la mort de Pierre III. La seconde, c'est qu'elle s'était emparée du trône et le détenait au détriment de l'héritier légitime. Il est vrai que de cette usurpation jaillissait un splendide règne. La troisième, c'est qu'elle connaissait le caractère de Paul et qu'elle devinait que, à peine sur le trône, il allait se livrer à des excentricités sans nombre. En effet, à peine monté sur le trône, il prit le contre-pied de tout ce qu'avait fait Catherine, se déclara le champion de toutes les vieilles idées monarchiques et réactionnaires, se proclama, tout prince schismatique qu'il était, grand maître de l'ordre de Malte aboli par la France, se fit le chef de la seconde coalition, puis tout à coup, à propos de 6 000 prisonniers faits par Brune dans la campagne de Hollande et que Bonaparte lui avait renvoyés sans rançon et habillés à neuf avec armes et bagages, il se prit d'un grand amour et d'une profonde admiration pour Bonaparte. Sentiments qui, s'ils ne furent pas cause de sa mort, n'y nuisirent pas. Quant à ces excentricités qu'avait prévues Catherine II, elles ne firent point défaut à Paul. Petit, il se croyait grand. Laid, il se croyait beau. Il s'habillait comme le roi Frédéric Ier qu'il avait pris pour modèle, quoique sa grand-tante Élisabeth lui ait fait une rude guerre. La guerre de Cent Ans, qui nous a coûté le Canada et une partie de l'Inde. Il portait une canne comme lui, une tabatière comme lui, un chapeau comme lui. Le petit chapeau de Napoléon Ier n'est qu'un diminutif des chapeaux de Frédéric et de Paul Ier. Cependant, les commencements de règne du nouveau souverain ne portèrent nullement l'empreinte de cette folie que craignait la tsarine qui venait de mourir. L'impératrice Marie, sa femme, était tombée la première à ses genoux et l'avait saluée empereur immédiatement après Bezborodko. Paul l'avait relevée, elle et ses enfants, en les assurant de ses bontés paternelles et impériales. Puis, le même jour, il avait reçu, selon leur rang et leur numéro d'ordre, les chefs des provinces et de l'armée, les grands seigneurs et les courtisans. Derrière eux, un détachement de gardes avait juré fidélité au souverain, que, la veille, il gardait plutôt pour répondre de lui que pour lui faire honneur, plutôt comme prisonnier que comme héritier de la couronne. Puis on était parti pour Saint-Pétersbourg et à l'instant même, le bruit des armes, les cris de commandement, le froissement des éperons, le craquement des grosses bottes avaient retenti dans ces mêmes appartements où venait de s'endormir pour toujours la grande Catherine. Car Paul Ier, qui ne devait pas régner, venait d'être proclamé empereur et son fils Alexandre, tsarévitch et héritier présomptif de la couronne. Paul avait 43 ans. S'il eût succédé à son père dans l'ordre légal, il eût dû régner depuis 34 ans. Ces 34 années-là, au contraire, avaient été 34 années d'exil et de mépris. Pendant ces 34 années, il avait beaucoup souffert et croyait avoir beaucoup appris. Aussi arrivait-il sur le trône avec une masse de règlements rédigés pendant son exil qui se pressèrent autant d'apparaître comme règlements qu'il se pressa d'apparaître comme empereur. D'abord, et pour bien indiquer l'opposition qu'il faisait non seulement à la politique, mais encore à l'administration de sa mère, il commença par proclamer un oukase qui contremandait une levée de recrues décrétée par Catherine et qui, par tout l'Empire, enlevait un serf sur 100. Cette mesure avait ce bon côté qu'elle acquérait à la fois au nouvel empereur la reconnaissance de la noblesse sur laquelle pesait cette dîme et des paysans qui la payaient en nature. Zouboff, le dernier favori de Catherine, croyait avoir tout perdu en perdant la tsarine. Il craignait pour ses chiens, pour sa liberté, pour sa vie, et se tenait loin de l'empereur, attendant ses ordres. Celui-ci le fit venir, lui laissa ses emplois et lui rendit la canne de commandement qu'il avait renvoyée et qui était le signe du grade d'aide de camp général. « Continuez, lui dit-il, à remplir vos fonctions près des corps de ma mère. J'espère que vous serez pour moi un aussi fidèle serviteur que vous l'avez été pour elle. » Ce bienfait ne fut pas perdu. Nous retrouvons 5 ans plus tard Zouboff étranglant Paul Ier. Kosciusko, l'adjudant de Washington, le major général de Poniatowski, le vainqueur de Dubieka, attaqué le 4 octobre 1794 à Massiliovice par une armée russe 3 fois supérieure à la sienne, était tombé percé de coups et en criant, dit-on, « Fini Polonies !» Fait prisonnier, il avait été conduit à Saint-Pétersbourg, était consigné dans l'hôtel du feu comte d'Anhalt et avait pour sa garde habituelle un major qui ne le quittait jamais, mangeait avec lui et couchait dans sa chambre. Paul alla le délivrer lui-même et lui annonça qu'il était libre. Puis, sans attendre les remerciements du prisonnier, il sortit. Celui-ci, alors, peut-être autant pour s'assurer qu'il n'avait pas fait un rêve que pour remercier l'empereur, se fit porter au palais la tête encore enveloppée de bandages. Paul ne se borna point à la liberté rendue. Il lui offrit une terre et des paysans dans son empire. Mais Kosciusko refusa, demandant en échange une somme d'argent pour aller vivre et mourir où il voulait. Paul lui donna 100 000 roubles et 21 ans après, Kosciusko mourait à Soleure. Au milieu de tous ces premiers actes, le moment était venu de rendre les derniers honneurs à l'impératrice. Paul, alors, songea à accomplir un double devoir filial. Depuis 34 ans, nul n'avait, si ce n'est tout bas, prononcé le nom de Pierre III. Paul Ier se rendit au couvent de Saint-Alexandre Nevski, où son père avait été enterré, descendit dans les caveaux et se fit montrer par un vieux moine sa tombe ignorée. La fit ouvrir, s'agenouilla devant ses restes, tira de la main du squelette son gant, qu'il baisa 3 fois. Puis, ayant prié longtemps et pieusement près du cercueil, il le fit monter au milieu du chœur, ordonna que les mêmes services que l'on célébrait près du corps de Catherine au palais fussent célébrés près de lui, et, dernier enseignement du retour des choses humaines, fit conduire le deuil de l'assassiné par les assassins eux-mêmes, ou du moins par ceux qui vivaient encore. Mais auparavant, Paul, après avoir fait couronner le cercueil de son père, Pierre III n'avait jamais été couronné, l'avait fait transporter au palais pour être exposé près du corps de Catherine. Et de là, les restes des deux souverains, si terriblement séparés pendant leur vie, si étrangement réunis après leur mort, furent transportés à la citadelle, placés sur la même estrade, où pendant 8 jours, le peuple par religion, les courtisans par bassesse, vinrent baiser la main de l'impératrice et le cercueil de l'empereur. Mais au pied de cette tombe, Paul Ier sembla avoir oublié cette sagesse qui avait présidé à ses premiers actes. Isolé, ennuyé dans son palais de Gatchina, ne sachant que faire, n'ayant pas reçu cette éducation qui porte aux idées élevées, il s'amusait à une foule de petits détails militaires, brossant lui-même ses boutons d'uniforme et faisant reluire les boucles de ses ceinturons. Là, il avait rêvé une foule de changements dans le costume militaire. Ces changements, il s'empressa de les mettre à exécution. D'abord, il changea la couleur de la cocarde russe, qui, blanche, était un point de mire pour les fusils ennemis. La fit noire avec un liseré jaune. Changea la forme du plumet, la hauteur des bottes, le nombre des boutons de guêtre, institua dans la cour même du palais, à 3 heures de l'après-midi, une revue quotidienne qu'il baptisa du nom de Vart Parade, laquelle devint non seulement l'affaire la plus importante de son gouvernement, mais encore le point central de toutes les affaires du royaume. C'était pendant cette parade qu'il donnait ses ordres, publiait ses oukases. Ce fut pour ces parades qu'il inventa les pantalons de peau, que les soldats, été comme hiver, ne pouvaient mettre qu'en les mouillant et qui, en séchant, dessinaient les formes comme un tricot. C'était à ces parades, enfin, que, entre les grands-ducs Alexandre et Constantin, le grand-duc Nicolas était encore trop jeune, tous les jours, quelque froid qu'il fît, sans fourrure, la tête nue et chauve, le nez à la bise, une main derrière le dos et de l'autre main levant et baissant alternativement sa canne en criant « Ras dva, ras dva, une, deux », on le voyait bravant 20 degrés de froid et trépignant pour se réchauffer. Un jour, à l'une de ces Vart parades, un régiment manœuvra mal. Paul fit recommencer la manœuvre, et comme la manœuvre n'avait pas mieux réussi la seconde fois que la première, « Au trop haut et en Sibérie !» cria Paul. Et le régiment, qui ne connaissait que l'obéissance passive, colonel en tête, sortit de la cour du palais et partit pour la Sibérie, où il était arrivé, à moins qu'il ne fût resté en route, si un courrier ne l'eût rejoint à 80 verstes de Saint-Pétersbourg et ne lui eût porté contre-ordre. Mais les réformes somptuaires de Paul ne s'arrêtaient point à ses soldats, qu'il habillait et déshabillait comme des pantins. Elles s'étendaient souvent jusqu'aux bourgeois. La Révolution française était la bête noire de Paul. Or, la Révolution française, en mettant à la mode les chapeaux ronds, lui avait donné l'horreur de cette espèce de coiffure. Aussi, un beau matin, une ordonnance parut. Cette ordonnance défendait de se montrer en chapeau rond dans les rues de Saint-Pétersbourg. Pris au dépourvu, les bourgeois de la ville impériale, soit manque de chapeaux à trois cornes, soit prédilection pour les chapeaux ronds, ne changèrent pas de coiffure aussi rapidement que le désirait l'empereur. Alors l'empereur, qui aimait à être promptement obéi, plaça à l'entrée de chaque rue des cosaques et des hommes de police avec ordre de décoiffer les récalcitrants. Lui-même, pendant cette exécution, qui heureusement s'attaquait aux chapeaux et non aux têtes, parcourait les rues de Saint-Pétersbourg en traîneau pour voir comment ses ordres étaient exécutés. Il allait, à la suite d'une de ses tournées, rentrer au palais, lorsqu'il aperçut un Anglais qui, soit qu'il trouva que son chapeau allait bien à l'air de son visage, soit qu'il jugea qu'un oukase sur les chapeaux était un attentat à la liberté individuelle, n'avait pas voulu, réclamant les privilèges de sa nationalité, se séparer du sien, et portait, du moins en apparence, un chapeau rond. L'empereur s'arrête et ordonne d'aller décoiffer l'impertinent insulaire qui se permet de le braver jusque sur la place de l'amirauté. L'officier part au galop, pique vers le coupable et le trouve respectueusement coiffé d'un chapeau à trois cornes. Le cavalier, désappointé, tourne le dos et revient faire son rapport à l'empereur. L'empereur prend sa lorgnette, la braque sur l'Anglais. L'Anglais porte un chapeau rond. L'officier est envoyé aux arrêts et ordre est donné à un aide de camp d'aller arracher le chapeau rond sur la tête du rebelle. L'aide de camp part comme s'il s'agissait d'enlever une redoute, mais 5 minutes après, il revient vers l'empereur et lui affirme que l'Anglais porte un chapeau à trois cornes. L'empereur rebraque sa lorgnette sur l'Anglais. L'Anglais a décidément un chapeau rond. L'aide de camp est envoyé aux arrêts avec l'officier. Un général alors offre de remplir la mission qui vient d'être fatale à ses deux devanciers. L'empereur fait un signe d'approbation. Le général part au galop, sans perdre un seul instant de l'œil celui vers lequel il est envoyé. Mais soit que sa vue fixée sur un seul point se fatigue, soit qu'il devienne le jouet d'un mirage, Il lui semble qu'au fur et à mesure qu'il approche, le malheureux couvre-chef change d'aspect et de forme ronde, passe à la forme triangulaire. En effet, quand le général arrive près de l'anglais, l'anglais est coiffé d'un tricorne. Cette fois, le général veut en avoir le cœur net. Il s'empare de l'anglais et le conduit au traîneau de l'empereur. Alors, tout s'explique. L'anglais, pour concilier son orgueil national avec ce qu'il doit d'égard au souverain dans les états duquel il voyage, s'est fait confectionner un feutre qui, au moyen d'un ressort intérieur, passe subitement de la forme prohibée à la forme légale. L'empereur trouva l'idée originale, fit grâce à l'officier, fit grâce à l'aide de camp et permit à l'anglais de se coiffer à son bon plaisir. L'ordonnance sur les chapeaux fut suivie d'une ordonnance sur les voitures. Un matin, l'empereur rendit un oukase qui défendait d'atteler les chevaux à la manière russe, c'est-à-dire le postillon montant le cheval de droite et ayant le cheval de main à gauche. 15 jours étaient accordés aux propriétaires de calèches, de landaus et de droschkis pour se procurer un équipement à l'allemande. Après ces 15 jours, la police avait l'ordre de couper les traits des équipages qui ne seraient point selon l'ordonnance. La réforme, d'ailleurs, ne s'arrêtait pas aux chevaux et aux voitures. Elle montait jusqu'aux cochers. Les isvotchiks reçurent l'ordre de s'habiller à l'allemande, de sorte qu'à leur grand désespoir, il leur fallut couper leur barbe, et à leur grande honte, coudre au collet de leur habit une queue qui demeurait toujours à la même place, quoique leur tête tournât à droite et à gauche. Un officier qui n'avait pas encore eu le temps de se conformer à la nouvelle prescription avait pris le parti de se rendre à pied à la Warte Parade plutôt que de s'exposer à déplaire à l'empereur par la vue d'un véhicule proscrit. Enveloppé de son manteau, il se faisait suivre d'un soldat qui portait son épée. Paul rencontra l'officier et le soldat, fit l'officier soldat et le soldat officier. Sous le règne de Catherine, un règlement qui remontait à la plus haute antiquité voulait que toute personne rencontrant sur son chemin l'empereur ou le tsarévitch, s'il était à cheval, descendit de son cheval. S'il était en voiture, descendit de voiture. Et quelque temps qu'il fit, que le pavé fût brûlant ou glacé, qu'il tombât de la pluie ou de la neige, se prosterna si c'était un homme, fit la révérence si c'était une femme. Catherine avait aboli cette ordonnance. Paul la rétablit. Deux événements assez graves furent la suite de cette nouvelle mesure. Un officier général, dont le cocher n'avait pas reconnu l'équipage de l'empereur, fut arrêté en pleine rue, désarmé et envoyé aux arrêts pour 15 jours. Les 15 jours passés, on voulut lui rendre son épée, mais le général refusa de la reprendre, disant que son épée était une épée d'honneur donnée par la grande Catherine et que nul n'avait le droit de la lui enlever. L'empereur regarda l'épée, vit qu'en effet elle était d'or et enrichie de diamants. Alors il appela le général, la lui remit à lui-même, lui affirmant qu'il n'avait aucun ressentiment contre lui, mais néanmoins lui ordonna de partir dans les 24 heures pour l'armée. Voilà qui finissait bien. Mais les choses ne finissaient pas toujours ainsi. Un des plus braves brigadiers de l'armée, M. de Likhavov, tomba malade à la campagne. Et une ordonnance ayant été prescrite par les médecins, Mme de Likhavov ne voulut s'en fier à personne de l'aller chercher à Saint-Pétersbourg. Elle partit donc pour la ville, ignorant l'oukase qui avait été rendu en son absence. Le malheur voulut qu'elle croisa l'empereur, qui se promenait à cheval, et dans son ignorance, elle continua son chemin sans lui rendre l'hommage voulu. L'empereur dépêcha un officier à la poursuite de l'équipage, le cocher et les 3 valets de pied furent faits soldats, et la comtesse conduite en prison. Le comte mourut de saisissement en apprenant cette nouvelle, et la comtesse devint folle en apprenant la mort de son mari. Dans l'intérieur du palais, une étiquette non moins sévère était affichée. Tout noble admis au baise-main devait faire sonner le baiser avec sa bouche et retentir le plancher de son genou. Le prince Georges Galitzin, qui descendait des anciens princes lituaniens et dont la famille portait depuis Michel Ivanovitch Bulgakov ce surnom de Galitzin, qui veut dire gantelet, se croyant d'aussi bonne maison que le fils d'un duc de Holstein et d'une princesse d'Anhalt-Zerbst, n'ayant pas fait sonner le baiser assez haut et retentir le plancher assez fort, fut envoyé aux arrêts pour un mois. Au milieu de toutes ces fantaisies du tsar, il lui en prit une qui nous ramène tout naturellement au comte Kouchelev Bezborodko. Ce fut d'ordonner à Bezborodko, qui n'avait pas d'enfant, de marier sa nièce au comte Kouchelev, qui avait été en exil avec lui à Gatchina. Le mariage se fit, puis comme Bezborodko mourut sans enfant, comme un frère et le fils de ce dernier moururent sans enfant, le fils du comte Kouchelev et la mère du prince Bezborodko réunirent les deux fortunes des Bezborodko et des Kouchelev. De là vient l'immense fortune du comte Grégoire Kouchelev, dont les fenêtres jetaient jusqu'à 6 heures du matin le trop-plein de leur lumière sur la place du Palais-Royal.